franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Les Carnets concluent cette semaine dans l'Eure-et-Loir avec en premier une expérience audacieuse et humaine à connaître. Elle est menée par l'Association départementale des personnes handicapées mentales, l'ADAPEI 28, et elle porte sur le sujet encore tabou de la vie affective et sexuelle de ces personnes. Le projet que Philippe Beignet va vous présenter dans un court instant est parti d'un premier travail réalisé avec une compagnie de théâtre, le théâtre en pièces. Et cette phase préparatoire a donné naissance à un moyen-métrage réalisé avec des acteurs professionnels et avec des personnes handicapées. Vous pouvez lire le compte-rendu de cette expérience grâce à Laurent Gibovski dans les pages numériques de La Vie. À Nogent-le-Rotrou, 6 artisans souhaitaient partager un même atelier de production et de création. Puis finalement, cet atelier, dit de la boîte à outils, s'est ouvert au public qui vient désormais s'y former, créer, fabriquer, bricoler, recycler. Coordinatrice de ce lieu récemment inauguré, Fanny Debar sera donc notre seconde interlocutrice.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Philippe Beignet, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Philippe, vice-président de l'ADAPEI 28, donc association départementale d'enfants, de parents et d'enfants inadaptés. On parle aussi d'associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis chez vous à Chartres. On les appelle les papillons blancs. Quelle est la vocation de l'association ?
La vocation est de prendre en charge les personnes en situation de handicap mental depuis leur petite enfance jusqu'à la fin de leur jour. Alors ça veut dire on a un certain nombre d'établissements qui vont du jardin d'enfants spécialisé jusqu'à des foyers de vie retraite.
Les regards évoluent sur le handicap, il y a des améliorations sociales, il y a des améliorations professionnelles, mais on est quand même loin du compte.
Écoutez, ce qu'il faut regarder, c'est le sens de l'évolution, et celui-ci est très favorable quand même. Il y a quand même un accueil beaucoup plus important que nous constatons depuis quelques années, en particulier depuis 2005, où il y a eu cette fameuse loi sur la prise en compte du déficit intellectuel. Voilà.
Et puis alors, il y a un sujet qui est un petit peu délicat, mais qui vous tient à cœur, parce qu'on l'aborde un petit peu plus maintenant, mais encore pas suffisamment, c'est la vie affective, amoureuse et sexuelle.
Et oui, bien sûr, parce que d'abord, depuis longtemps, le regard sur le handicapé a tendance à faire peur. On n'imagine pas que ces gens-là puissent avoir une vie amoureuse, et quelquefois, d'emblée, on leur interdit cette possibilité-là. Dans certains établissements, et notamment les foyers, on fermait les portes à clé des chambres de façon à être bien sûr qu'il n'y a pas de risque de vie amoureuse, voire sexuelle.
Oui. Alors justement, vous lancez un défi, vous avez lancé un défi. Je sais que vous étiez peut-être un petit peu réticent au départ à l'idée de réaliser un film avec des acteurs handicapés, des personnes handicapées, sur la vie amoureuse à partir de Roméo et Juliette.
Alors, si vous voulez, je dirais pas que j'étais, c'était un peu en réaction à un certain nombre de films que j'avais vus sur ce thème, où je sentais qu'on avait tendance à vouloir imaginer que on pouvait leur donner une vie normale, etc. Donc j'ai réfléchi à tout ça, et avec des amis qui font du théâtre et qui depuis longtemps, depuis à peu près le même temps que moi, m'intéresse à cette vie-là, font s'exprimer des personnes en situation de handicap, je me suis rapproché d'eux et on a conçu de faire donc un film en privilégiant, si vous voulez, le côté heureux de l'amour, c'est-à-dire la poésie, c'est-à-dire la délicatesse, c'est-à-dire la pudeur, sans chercher à être provocateur, mais en allant quand même jusqu'au fond des choses et en appelant les choses par leur nom.
Cela veut dire qu'il y a eu une écriture conjointe des professionnels de la compagnie, c'est le théâtre en pièces, et des personnes handicapées.
Voilà, c'est ça. On s'est mis à travailler en insistant sur le fait qu'on ne pouvait pas parler de ces choses-là sans être vraiment très rigoureux, parce que chaque fois qu'on parle de la vie sexuelle d'autrui, on est confronté à sa propre réaction. Donc il faut qu'on soit suffisamment au clair avec ça pour soi-même, pour aborder et accompagner ces personnes.
Alors il résulte de cette expérience, grâce à une avant-première qui était... propose au cinéma Les Enfants du Paradis à Chartres à l'automne dernier, un moyen métrage de 45 minutes sur les traces de Roméo Juliette. J'ai vu des extraits, c'est remarquable, le résultat est remarquable. Est-ce que ce film circule en France aujourd'hui?
Alors, on s'y emploie. Sous deux façons, c'est-à-dire que donc on a décidé à partir de cette amitié avec les gens de théâtre de faire appel à un vrai réalisateur de cinéma. Nous avons eu Mathurin Rey, qui est un jeune réalisateur de 26 ans, huit scénarios successifs. Et si on a pris ce thème sur les traces de Roméo et Juliette, c'est précisément parce que la famille de Juliette n'imagine pas que leur fille puisse épouser quelqu'un qu'il n'ait pas choisi. Nous, c'est à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on n'imagine même pas que la personne puisse avoir une vie amoureuse. Voilà. Ce court-métrage a une vie qui est en train de s'installer, ça c'est un des premiers éléments. Le deuxième, c'était mon souhait initial, de faire en sorte qu'il serve dans nos établissements pour continuer la réflexion et l'accompagnement convenable à la vie amoureuse des personnes de chez nous. Donc on va faire un DVD qui permettra aux éducateurs de provoquer des réunions avec les personnes en situation de handicap sur tel ou tel thème, qu'il s'agisse de la vie amoureuse, de la façon dont on peut exprimer les pulsions. Voilà, on a l'intention d'aller assez loin dans l'intimité tout en restant dans le domaine de la pudeur.
Magnifique expérience, bravo. Vous allez avoir les liens avec l'ADAPEI 28, les papillons blancs, le siège est à Chartres. Et puis vous aurez aussi la possibilité de voir des extraits sur YouTube de ce film extraordinaire sur les traces de Roméo et Juliette. Merci beaucoup, Philippe.
Je ne dirais pas qu'il est extraordinaire, je dirais qu'il est simplement normal.
Merci.
Merci à vous.
On est toujours rassuré quand des organismes, quel que soit leur statut, passent le cap des 10 ans et continuent à offrir des opportunités aux personnes sans emploi, mais désireuses de créer leur activité. C'est le cas de la couveuse aînée, fondée en 2005 et toujours active au sein de la pépinière d'entreprise de Dreux. Aînée signifie accompagnement individuel des nouveaux entrepreneurs émergents. Aînée, c'est un peu aussi la structure des aînés, c'est-à-dire de chefs d'entreprise qui donnent bénévolement de leur temps pour aider un nouvel entrepreneur à s'installer durablement à la sortie de la couveuse. Nous avions interrogé les responsables d'aînés quasiment au démarrage de leur activité. 10 ans plus tard, ce sont 130 entrepreneurs qui ont gagné leur rang de chef ou de patron d'entreprise. Aînés n'est pas la seule structure de ce type en France, hein, et l'Union des couveuses d'entreprise a recensé ces organismes dans 59 départements, soit 178 lieux d'accueil pour plus de 4000 porteurs de projets accompagnés, selon la formule fréquemment usitée, 4000 porteurs de projets par an. À Dreux et dans les deux permanences de Chartres et de Châteaudun, les candidats viennent souvent sur les conseils de Pôle emploi, enfin ils sont dirigés par Pôle emploi vers cette couveuse, ou par la mission locale. En 18 mois, ils apprennent les bases de l'entrepreneuriat, comptabilité, droit fiscal, communication, relations clients, et pendant cette période, la personne aidée bénéficie du numéro SIRET de l'association et peut donc entreprendre tout en demeurant encadré par la couveuse. Les résultats sont quand même très encourageants. 73% des personnes deviennent entrepreneurs ou entrepreneuses et 15% obtiennent un emploi salarié, ce qui donne à peu près donc 90% de sorties positives, ce qui est assez rare par rapport à la moyenne nationale pour être souligné. Le site c'est couveuse-aînée.com. Fanny Debar, bonjour.
Bonjour.
Coordinatrice de la boîte à outils, donc suite à de nombreux courriers, dont celui de Floriane, que j'ai sous les yeux, merci à elle, pour parler donc de ce lieu qui est le premier atelier associatif de Nogent-le-Rotrou.
De menuiserie et de métallerie.
Ouais. L'histoire commence en 2012, alors autour de quelle personne et dans quel objectif?
Alors en 2012, à l'origine, il y avait 6 professionnels, alors des professionnels du bâtiment, de la restauration, mais aussi du milieu du spectacle, qui avaient tous des compétences un peu différentes, ou autour du bois, ou autour de la métallerie, et qui avaient plutôt au début l'idée de mettre en commun en fait leurs outils, leurs machines. Et puis de la mise en commun d'outils et de machines est venue l'idée d'un lieu du coup partagé. Mmh. Et très très vite est née en fait l'idée que ce lieu qui servait à ces 6 professionnels, sur d'autres moments, pouvait servir à plus de monde encore que ces 6 professionnels, et notamment à des particuliers. Il y a vraiment à la boîte à outils l'idée très marquée de revaloriser ces savoir-faire manuels autour du bois et de la métallerie, et pas que, puisque du coup, depuis, il y a eu d'autres développements autour du tissu, etc.
C'est un beau développement, sauf que quand on est un professionnel, là vous parliez des professionnels d'origine, par exemple celui du bâtiment, on n'a pas trop le temps de partager son temps et ses outils avec des néophytes, simplement pour la transmission de techniques.
C'est ça. Alors c'est pour ça qu'au début, le projet, c'était qu'il y ait des temps pour les professionnels, plutôt en semaine, oui. Et puis des temps pour les particuliers sur un moment plus dédié à l'associatif, donc plutôt le week-end. Comme ce volet associatif s'est greffé au volet professionnel, on est rentré dans une logique de mise aux normes, d'installation des locaux, etc., sans commune mesure avec ce que les professionnels avaient envisagé s'ils travaillaient juste entre eux et s'ils s'arrangeaient juste entre eux. Donc le projet a mis beaucoup de temps à émerger, et du coup, les professionnels, de leur côté, se sont installés leurs ateliers pour pouvoir travailler tout de suite et plus vite, ont trouvé leur solution en fait du coup de leur côté, et aujourd'hui du coup la boîte à outils est un local purement associatif, purement destiné aux particuliers. De temps en temps, on a quelques interventions de professionnels qui viennent utiliser des machines qu'ils n'auraient pas dans leur atelier, mais simplement de manière ponctuelle pour compléter en fait leur équipement à eux. C'est pas leur espace de travail principal, et il n'y a pas d'espace qui leur soit réservé ou dédié. C'est vraiment un lieu qui est ouvert à tous, et notamment aux particuliers qui veulent venir fabriquer, réparer chez nous et utiliser du coup des machines professionnelles avec un encadrement de professionnels, mais dans une logique vraiment purement collaborative, ouverte à tous, quoi.
Et de fait, vous avez créé 2 emplois.
Alors, on a créé 2 emplois qui sont un peu incertains dans le sens où on vient d'ouvrir et où on dépend très grandement des subventions. Donc là, par exemple, il va y avoir une petite interruption de nos 2 salariats pour quelques mois, le temps qu'on récupère les subventions. Mmh. Mais du coup, oui, effectivement, en septembre, on a recruté sur un CDD de 4 mois un responsable d'atelier et une coordinatrice, enfin une responsable d'atelier d'ailleurs, parce que ce sont des femmes toutes les deux, une responsable d'atelier et une coordinatrice. Qui vont là redevenir bénévoles en janvier-février pour redevenir salariés probablement au printemps.
D'accord.
La boîte à outils repose beaucoup, beaucoup pour l'instant sur le bénévolat, et j'en profite pour remercier tous ceux qui sont autour de nous pour nous accompagner dans ce projet, parce que le lieu n'existe vraiment que parce qu'on est nombreux à le faire exister, à le porter.
Mais vous avez bénéficié, Fanny, du facteur chance, parce que tout s'est développé très vite. Ouverture des lieux en juillet 2016, après un travail des bénévoles pour la réhabilitation, vous trouvez quand même un espace de 800 mètres carrés, vous avez des coups de pouce financiers de la région de l'Europe, déjà 150 adhérents, et puis vous trouvez, en plus de ça, on va en parler dans 2 minutes, un échange avec une ressourcerie.
Alors, il y a un peu de chance, c'est sûr, hein. Typiquement, le fait que le local, juste à côté du local de notre association, se soit libéré au moment où un projet de ressourcerie émergeait à nos gens, et que du coup, le projet de ressourcerie s'installe juste à notre porte. Ça, c'est sûr que c'était un coup de chance. Après, je pense que c'est pas juste de la chance. Je pense qu'on s'inscrit vraiment dans un moment où il y a une vraie volonté de se réapproprier, notamment ses savoir-faire. Je crois que beaucoup d'entre nous, on est très nombreux à avoir conscience de l'aberration, du gaspillage, à vouloir essayer de consommer un peu autrement, à éviter de jeter. Je pense que du coup, tout le soutien qu'il y a autour de nous et l'engouement qu'il y a pour le projet, c'est vrai qu'on a ouvert en juillet, hein, vous le disiez, 6 mois après, on a déjà 150 adhérents. Et c'est vrai que d'arriver à 150 adhérents en quelques mois montre qu'il y a vraiment un désir, une envie de remettre la main à la pâte et de revenir vers ces savoir-faire manuels.
Ouais. Eh ben, on est convaincus, on vous nomme ministre de l'Environnement et de l'Économie circulaire.
Merci, quelle confiance.
Ah ben d'emblée, hein, ben, attendez, c'est très convaincant. Et puis je vois que vous avez besoin toujours de bénévoles en menuiserie, en métallerie.
Tout à fait, pour accompagner nos adhérents les plus novices sur nos machines et sur la conception de leurs objets.
Vous allez trouver, chers amis, 2 adresses, celle de la boîte à outils avec son site et puis celle de la page Facebook de la boîte à outils, on peut abréger LBAO pour aller directement à cette page Facebook. Merci Fanny.
Merci à vous.
Un petit coup de violon juste avant de partir. La semaine prochaine, nous allons traverser l'Indre et nous vous présenterons en ouverture lundi Cyclique. Or Cyclique, c'est l'agence régionale du livre, de l'image, de l'audiovisuel et du numérique. Et Cyclique possède un des rares pôles du patrimoine audiovisuel régional en France. C'est 16 000 films d'amateurs qui vont des années 20 jusqu'à nos jours. Et puis on ouvrira aussi un dossier sur un métier à la mode, cuisinier itinérant, avec le magazine Village. Et puis pour les semaines suivantes, je vous rappelle qu'au mois de février, nous allons traverser le Cher, l'Yonne, le Val d'Oise, les Yvelines et l'Allier. Merci à Juliette Gou qui réalisait ces émissions des carnets cette semaine. Merci d'ailleurs à votre présence toujours aussi convaincante, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc on vous aime. Merci à Mathilde Verfailly et merci à Guillaume Roux qui était à la technique aujourd'hui. Nicolas Stouffle assisté de Yann Paillet, le jeu des 1000 euros à Fontaine-l'Aiguille.